Vous écoutez RFI, il est 19h ici à Paris, 18h en temps universel, 17h à Dakar.
RFI Soir, Romain Ouzoui.
Mercredi 28 mai, bonsoir à tous. Le cycle de l'info reprend ses droits, c'est votre rendez-vous en soirée sur RFI. Voici le coup d'envoi des 3 heures d'actualité. Et le programme, évidemment. Dans 10 minutes, ça commence avec Accent d'Europe, qui sera ce soir en Allemagne, 15 ans après le premier grand scandale d'abus sexuels dans l'église catholique. Reportage également à suivre ce soir en Lituanie, où l'école sort des salles de classe. Explication sur cette initiative inédite, signée de la mairie de Vilnius. Juste après, ce sera le débat du jour. Et ce soir, on parlera eh bien de deux parties qui se reparlent après le divorce. Il s'agit du Royaume-Uni et de l'Union Européenne. On est 5 ans après le Brexit. Est-ce que Londres est de retour? Voilà la question que nous poserons quelques semaines après un sommet bilatéral surnommé Reset par le Premier ministre britannique Keir Starmer, en d'autres mots réinitialisation des relations, situation qui est favorisée évidemment par le contexte international, mais jusqu'où le Royaume-Uni peut-il se rapprocher de l'UE? Est-ce qu'on peut imaginer un retour dans l'union douanière? Eh bien, réponse à suivre dans 30 minutes. Dans une heure, ce sera le grand journal du soir et le dossier qui nous emmènera ce soir à Vannes, dans l'ouest de la France, alors que cet après-midi, le verdict a été rendu dans le procès Le Squarneck, retentissante affaire de pédocriminalité. L'ex-chirurgien condamné à 20 ans de prison mais sans mesure de rétention de sûreté, ce qui fait vivement réagir. 18h30 TU, Afrique Soir, première édition de ce mercredi, 19h10 temps universel, et bien le décryptage sur la troisième voie vantée par le président français qui est actuellement en tournée en Indo-Pacifique, France et Asie du Sud-Est. Est-ce un rapprochement gagnant-gagnant? Clotilde Dumais et ses invités pour y répondre. Et puis dernier rendez-vous de la soirée, 19h40 temps universel, le grand reportage qui sera consacré à l'autre club de foot à Paris, à 3 jours évidemment de la finale du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le Paris FC, appelé à grandir après son rachat par la famille Arnaud. Voilà pour le programme, mais pour l'heure, 19h02 ici à Paris. Bonsoir Adrien Delgrange.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Votre journal est à la une ce soir, le Sénégal, où aujourd'hui s'est ouvert une concertation nationale.
Le but de cette concertation, réformer le système politique au Sénégal et consolider la démocratie jusqu'au 4 juin prochain. Les partis politiques sénégalais et tous les acteurs de la société civile intéressés par le sujet vont plancher sur l'amélioration du système électoral et de la vie politique en général. En ligne de Dakar pour RFI, Léa Lisa Vesteroff. Léa Lisa, ce dialogue s'est ouvert sur un appel de plusieurs figures de l'opposition à des réformes profondes, mais aussi à une pacification de l'espace politique.
Oui Adrien, le climat est tendu, a pointé Amadou Ba, arrivé deuxième à la présidentielle. Invité à s'exprimer à l'ouverture des travaux en tant que chef de l'opposition, l'ex-premier ministre a pointé des arrestations, des restrictions à la liberté qui interpellent, faisant référence à l'arrestation de plusieurs opposants, mais aussi de journalistes ces derniers mois. Une invitation à faire baisser les tensions politiques, relayée par la dizaine de figures de l'opposition qui s'est exprimée à l'ouverture des travaux. L'opposant Khalifa Sall a plaidé, je cite, pour une conduite plus apaisée et civile de la reddition des comptes en référence aux 5 anciens ministres actuellement inculpés par la Haute Cour de justice pour détournement de fonds présumés. Autre attente formulée par les participants à ce dialogue, celle de réforme pour s'assurer un meilleur fonctionnement de la vie politique et de la justice et pour que cette reddition des comptes se fasse dans le respect d'un procès équitable. Le président du Sénégal, de son côté, a rappelé l'importance de ces rencontres pour renforcer les acquis démocratiques, mais aussi réformer le système électoral pour éviter les contestations futures entre pouvoir et opposition. C'est donc un programme ambitieux qui attend les quelques 800 participants, partis politiques et membres de la société civile réunis jusqu'au 4 juin, qui ont tous rappelé l'importance également que les recommandations qui seront formulées ne restent pas lettre morte.
Merci Léa Lisa Vesteroff en direct de Dakar. L'actualité internationale aussi, se réunir autour d'une même table pour négocier. Moscou propose ce soir une deuxième séance de pourparlers avec l'Ukraine. Réunion qui pourrait avoir lieu le 2 juin prochain à Istanbul, vient de déclarer le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Emmanuel Macron en Asie du Sud-Est. Le président français est en Indonésie. Il a été reçu à Jakarta par son homologue Prabowo Subianto. Dans ce pays qui est le plus musulman, le pays musulman le plus peuplé au monde, les deux hommes ont profité de ces échanges pour pour évoquer la reconnaissance de la Palestine, alors qu'approche une conférence de l'ONU sur le sujet mi-juin. Envoyé spécial d'RFI à Jakarta, Nicolas Roca.
D'abord des mots rares ce mercredi, ceux de Prabowo Subianto, président de l'Indonésie, pays qui ne reconnaît pas Israël. Il a officialisé au plus haut niveau la ligne officielle de Jakarta, celle d'une solution à deux États.
L'Indonésie a indiqué qu'une fois qu'Israël aura reconnu un État de Palestine, elle sera prête à reconnaître Israël et à établir des relations diplomatiques.
Il a également évoqué le droit d'Israël à assurer sa sécurité, une sortie sensible dans le pays musulman le plus peuplé de la planète. En témoigne la première question posée à Emmanuel Macron par les étudiants venus le rencontrer à l'université d'État de Jakarta. Elle portait sur la guerre à Gaza.
Ce que nous allons faire, c'est déclencher un mouvement de reconnaissance de l'État palestinien, mais sous certaines conditions. Libération des otages, démilitarisation du Hamas, pas de participation du Hamas, mais aussi le fait que cet État palestinien doit reconnaître l'État israélien et son droit à se protéger. Et c'est la seule manière, et votre président ce matin a fait un discours très important, le jour où Israël reconnaîtra la Palestine, je reconnaîtrai Israël.
À l'approche de la conférence sur une solution à deux États en juin à l'ONU, le président de la République tente de mobiliser sur le sujet en Asie du Sud-Est. Prochaine étape, son grand oral au dialogue de la défense de Shangri-La ce vendredi. Nicolas Roca, Jakarta, RFI.
À 19h06 à Paris, dans l'actualité française, Joël Le Squarnec condamné à 20 ans de prison. Verdict de la cour criminelle du Morbihan. L'ancien chirurgien est accusé d'avoir commis des viols et agressions sexuelles sur près de 300 personnes, essentiellement des enfants. La politique en France, le Parti Socialiste se cherche un nouveau chef, Olivier Faure ou Nicolas Mayer-Rossignol. L'un des deux va diriger le PS. Ce duel de second tour est annoncé entre le premier secrétaire sortant et le maire de Rouen. Et c'est le concurrent arrivé en troisième position, Boris Vallaud, qui détient les clés du choix final. Valérie Gasse.
Boris Vallaud est dans la position du faiseur de roi et dès ce mardi matin, les deux qualifiés pour le second tour, Olivier Faure arrivé légèrement en tête avec un peu plus de 40% des voix et Nicolas Mayer-Rossignol, lui, ont lancé un appel à les rejoindre pour former une nouvelle direction. Les quelques 20% des voix recueillis au premier tour par le patron des députés socialistes seront en effet déterminants pour gagner le 5 juin prochain. Depuis le dernier congrès à Marseille en 2023, Olivier Faure et Boris Vallaud ont travaillé ensemble. Le premier secrétaire sortant espère donc obtenir une nouvelle fois son appui. Mais dans le camp de Nicolas Mayer-Rossignol, on veut croire qu'aujourd'hui la donne a changé, comme l'explique le député Philippe Brun.
Il y a deux visions maintenant en lice. La vision de la continuation de la politique menée depuis 7 ans, c'est le socialisme de sous-traitance qui aujourd'hui a été battu par les militants, 60% d'entre eux n'en veulent plus. Et la ligne d'affirmation que nous portons avec Nicolas Mayer-Rossignol et que nous portons aussi avec Boris Vallaud.
La question de la ligne et des alliances à gauche, notamment pour la prochaine présidentielle, c'est la question centrale et un des éléments du choix de Boris Vallaud pour le moment silencieux. L'autre enjeu du second tour, c'est de savoir si Olivier Faure acceptera le débat que réclame Nicolas Mayer-Rossignol.
Un sport lors de filer à Roland-Garros où le double finaliste Casper Ruud a été éliminé. En revanche, ça passe aujourd'hui pour le tenant du titre Carlos Alcaraz. Côté français, Babacar Diarra. La journée a en revanche j'étais mitigé.
Oui, bonjour Adrien. On va commencer par le résultat le plus frais, la sortie de Giovanni Mpeci Pericard, éliminé par le Bosnien Damir Djumur. Une déception pour le gros serveur de 21 ans. Après avoir concédé les deux premières manches, il a eu un sursaut dans la troisième à remporter 6-4 alors qu'il avait un break de retard. À ce moment-là, on pouvait penser que le match avait basculé, d'autant plus qu'en tout début de quatrième set, le Bosnien a réclamé grimaçant un temps mort médical après une chute sur un mauvais appui, mais le Bosnien nous a fait une sorte de Gaël Monfils parce que très vite on a compris qu'il avait récupéré ses forces en défendant parfaitement son service. Mpeci, lui, il a craqué au septième jeu pour s'incliner 6-4 dans cette quatrième manche et il prend donc la porte, mais les Français ont fait 1-2 parce que Quentin Alice va vivre le troisième tour à Roland-Garros pour la première fois de sa carrière sur le court 14, l'un des plus chaleureux. Il a remporté son match aujourd'hui face au Serbe Miomir Kekmanovic et vendredi, Alice défiera le vainqueur de la Night Session, Holger Rune ou Emilio Nova.
Babacar Diarra en direct de Roland-Garros, RFI à Paris, 19h10. Là-bas.